BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
Nous sommes le dimanche 18 mai, les 13h. Bienvenue dans Affaire suivante numéro 297. Au sommaire, aujourd'hui, Dominique, déjà condamné à 20 ans de réclusion criminelle en juillet 2022 pour une série de 54 viols, tentatives de viol, agression sexuelle ou tentatives d'agression sexuelle. Dino Scala a été mis en examen ce jeudi pour 13 nouveaux cas. Affaire suivante, il dit tout de celui que l'on surnomme le violeur de la Sambre.
Oui, Ronald, des nouveaux rebondissements en quelques mois de l'ouverture du procès de Cédric Jubilard. Ça sera le 22 septembre prochain devant la cour d'assises de Pau. L'une des avocates des parties civiles demande de nouvelles fouilles en s'appuyant sur une expertise privée de la technologie du téléphone de Cédric Jubilard. Alors la technologie a-t-elle permis, va-t-elle permettre d'avancer définitivement pour retrouver le corps de Delphine Jubilard? Les révélations exclusives d'affaires suivantes dans un instant.
À ne pas manquer. Et puis nous recevrons Dominique, celui qui est considéré comme l'un des observateurs les plus avisés du monde judiciaire. À la radio, à la télé ou à l'écrit, il nous plonge dans des affaires où le commun rencontre le hors norme, où l'âme humaine sombre dans l'inconcevable. Jacques Pradel publie L'univers du crime aux éditions du Rocher. Il est notre invité.
Absolument. Affaire suivante, c'est tout de suite. Et c'est celle-là.
Bonjour Dominique, son surnom, on le sait, résume à lui seul un parcours hors norme. Dino Scala, le violeur de la Sambre, a donc été mis en examen ce jeudi pour 13 nouveaux faits de violence sexuelle présumée. L'homme de 64 ans, déjà condamné en 2022 pour 54 agressions, nie toute responsabilité. Elisa Tralin.
Derrière ces murs, Dino Scala purge déjà une peine de 20 ans de réclusion pour des violences sexuelles commises sur 54 victimes. Jeudi, celui qui est surnommé le violeur de la Sambre a été extrait de sa cellule pour être interrogé sur 16 nouveaux cas de viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence sur des jeunes femmes. Il a été mis en examen pour 13 d'entre eux, des faits commis entre 1986 et 2009.
Aucune femme ne désigne Dino Scala comme étant l'agresseur, mais on retient qu'il y aurait un mode opératoire approximativement identique.
Dino Scala avait l'habitude de surprendre ses victimes sur le trajet de son travail, le long de la rivière La Sambre. Dans la pénombre de l'hiver, il les entraînait à l'écart sous la menace.
Je me suis fait attraper par derrière. Ensuite, il m'a mis une arme blanche au cou, il m'a attaché mes mains, il a bandé mes yeux. Et puis après, il a commencé à vouloir me toucher.
Décrit comme un père dévoué par son épouse, un ouvrier bien inséré, président sympathique du club de football de sa commune, son ADN ne figurait pas au fichier des empreintes génétiques.
Malheureusement, un ADN ne permet pas d'identifier un auteur. Tous ces faits, c'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire un moment où il fait encore noir, avec... un auteur qui a utilisé des gants.
Dino Scala, 64 ans, est passé entre les mailles du filet pendant 30 ans avant d'être arrêté en 2018, grâce à la vidéosurveillance d'une commune en Belgique.
Voilà donc pour les faits. Dominique, nous accueillons sur le plateau Anne Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisatrice, de fait entrer l'accusé, autrice d'une émission sur cette affaire de la Sambre. Bonjour Paul Bensusan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, expert psychiatre. Vous avez expertisé Dino Scala. Également présent, le général François Daousse. Bonjour.
Bonjour.
Ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie. Par ailleurs, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai une question pour vous, général, avant de vous laisser entre les mains de Dominique. Vous qui avez rencontré des meurtriers, des violeurs, des assassins, Dino Scala, on a le sentiment qu'on est face à un personnage très particulier par son profil, son image, et l'ampleur de ce qui lui est reproché, avec ce qui lui est de nouveau potentiellement reproché. Dans quelle catégorie vous le mettez, de ce que vous avez, vous, rencontré au cours de votre parcours?
Criminel sériel, tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'il a une attitude bonhomme, un monsieur tout le monde qui passe à travers, que ce n'est pas un criminel pour autant. Et parmi ces catégories de criminels, c'est la sérialité qui est la plus importante. D'ailleurs, ça se trouve un des plus grands, si ce n'est le plus grand, de l'ère moderne, violeur en France. Donc ça dit quand même quelque chose sur cet homme qui a l'air d'une allure, mais si insignifiante, et comme je disais, si bonhomme.
Pour ça, peut-être qu'il est si difficile à attraper. Anne Gauthier, vous avez fait entrer l'accusé sur l'affaire Scala. Donc, on s'arrête après le procès, on va jusqu'au procès. On parle des affaires que des affaires jugées.
Bien sûr.
Et au procès, donc, on évoque ce futur, peut-être, de ce cas-là. On lui dit, on se retrouvera peut-être, vous vous en souvenez de ça?
Oui, oui, il y a... On savait, les victimes entre elles savaient qu'il y avait d'autres victimes, parce qu'en fait, il y avait eu déjà des reportages, il y avait eu des articles de journaux, et certaines personnes, certaines autres victimes, pensaient qu'elles avaient, elles aussi, été attaquées par cet homme-là, par tout ce qui s'est dit à l'époque sur Dino Scala.
Et cet homme-là, donc? Personnage insoupçonnable.
Ah, complètement insoupçonnable, bon père de famille, extrêmement bien inséré dans la société. Il avait créé une association, une association de football, une association de VTT. Il entraînait même des jeunes filles au football sans qu'il y ait le moindre geste, le moindre soupçon. Et c'était un homme très serviable. L'homme le plus sympathique du monde, serviable, le bon pote.
Et juste une chose encore, quand dans votre documentaire, vous racontez le brigadier Raphaël Philippot, donc, qui va retrouver la voiture du violeur sur un parking de Jeumont Électrique, une entreprise du Nord, qui tourne en voiture, il cherche cette fameuse
incroyable,
206.
Oui.
Et racontez-nous, il est là, il attend sur le parking que le type revienne à sa voiture. Racontez-nous ça.
En fait, il a été en Belgique. Pourquoi? Parce que les Belges, il y a eu une jeune fille qui s'est fait attaquer dans la nuit, et les Belges ont équipé Erqueville, ils l'ont équipé 6 mois plus tôt de caméras, et donc ils ont vu cette voiture en pleine nuit qui arrive et qui 10 minutes plus tard repart juste devant la gare où la jeune fille a été attaquée. Et donc ils ont une vidéo. Raphaël Philippot va là-bas voir les vidéos, et quand il en ressort, il a une intuition incroyable. Il se dit, mais cet homme-là, il n'est pas loin, il travaille ici. Et donc, il fait le tour d'Erqueville, il fait le tour de Jeumont, et il va d'entreprise en entreprise. Et tout d'un coup, il voit sur un parking la fameuse voiture. Parce qu'il n'y a plus d'Enjoliveur, parce qu'elle est très spéciale, cette
voiture. Elle allait à l'avant-droite cabossée.
Voilà, voilà.
C'est une vieille 206.
C'est une vieille, voilà. Et puis, il n'avait pas toute l'immatriculation, parce que la vidéo était de mauvaise qualité, et puis c'était la nuit. Et donc, il arrive et il se dit, mais c'est pas possible, ça fait 30 ans qu'on le cherche, ce type, et c'est moi qui vais le trouver, et qui suis là, et je vois la voiture, on y est. Et il attend, et il envoie à l'autre policier, Martins, il lui envoie, j'ai la voiture, il lui fait des photos. Et là, il voit un homme sortir et aller dans cette voiture. Il lui fait une photo, il fait une vidéo de cet homme-là. Il se dit, mais c'est lui, celui qu'on cherche depuis 30
violeur.
Ans. C'est lui, c'est notre violeur. Vous vous rendez compte, pour les policiers, ce que c'est?
Avec Dominique, une arrestation particulière.
Ouais.
C'est organisé, on attend un petit peu et on le confronte à son quotidien, son espace.
Absolument, ouais, on le confronte à son quotidien, on essaie de voir qui il est, on va poser des questions aux gens qui bossent avec lui. Et on tombe sur un type qui est quand même, qui a deux facettes, hein, Paul Bensusson, vous l'avez expertisé.
Oui, Dominique, à son sujet, j'avais employé cet oxymore de dire « il est la banalité personnifiée ». Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le général sur la fausse bonhomie. Il peut même être émouvant, comme lorsqu'il se plaignit en maison d'arrêt à la prison de Lille où nous l'avons rencontré avec le professeur Rouillon. Il se plaignait du sort qui lui était réservé par les autres détenus qui le contraignaient à l'isolement en raison de sa notoriété.
En prison, on parle des pointeurs. Les violeurs, oui, ce sont des pointeurs, et les autres prisonniers...
À qui on réserve souvent un traitement particulier.
Donc, il refusait les promenades, il restait cloîtré dans sa cellule. Il avait aussi cette espèce de honte sociale, puisque l'unique licenciement de sa vie, c'était dû à son interpellation. Et il dit, mon employeur m'a licencié pour viol. Et c'était pour lui comme une marque d'infamie. Ça, c'est ce qu'il appelait le Dino 1. Et le Dino 2, bien sûr, la fausse bonhomie, on la voit dans la violence dont il était capable vis-à-vis de certaines victimes, avec parfois des déferlements de violence, à cela près qu'il était capable, pour une ou deux d'entre elles, d'arrêter l'action si elles se mettaient à pleurer.
Ou à résister physiquement.
Ou pour une autre qui a eu ce geste génial et intuitif de l'entourer de ses bras alors qu'il l'a violée à son domicile, accessoirement en lui dérobant... je ne sais plus si c'est de l'argent ou sa carte de crédit, mais elle l'a entouré de ses bras dans un geste de protection, et il a fondu et il a arrêté l'action.
Mais ça dit quoi? d'un point de vue psyché. C'est-à-dire que c'est un menteur, c'est-à-dire que c'est un malade, c'est-à-dire que c'est un calculateur, comme on analyse, comme vous avez analysé cet homme qui vous a fait face.
Les violeurs en série, souvent, répondent à des critères diagnostiques d'un trouble, je vais être un peu jargonnant, je l'explique immédiatement, qui s'appelle le trouble paraphilique coercitif. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'excitation naît de la contrainte. Le seul fait de contraindre génère l'excitation. Parfois, il y a du sadisme sexuel, c'est-à-dire que l'humiliation, la peur ou la souffrance de la victime va faire bander, hein, pour le dire encore plus clairement. Mais pourquoi le trouble coercitif n'a pas été reconnu comme une pathologie? Très sincèrement, à cause des enjeux sociétaux. Si on commence à dire que tous les violeurs en série ont un trouble mental, ça veut dire que ça doit être considéré comme une atténuation de responsabilité.
Et donc, pénalement moins responsable. Etc.
Et donc, pour l'instant, ça n'est pas encore un diagnostic officiel.
Et sur les 13 nouveaux cas, ce qu'on a eu du mal, ici, on en parlait, donc il a été condamné pour 54 viols, agressions sexuelles, tentatives, à 20 ans de prison, maximum encouru, cumulation des en France, on n'additionne pas les peines, c'est quand même, et on le disait, c'est pas cher payé.
Ça fait 4 mois et demi par
54 victimes, 4 mois et demi par victime. Les 13 nouvelles, là, ces nouveaux procès, et on le recondamne, comment ça se passe, Anne?
Je ne pense pas qu'on va cumuler les peines. Je pense que c'est pour les victimes. C'est très important pour que les victimes soient reconnues victimes et qu'ils puissent leur dire ce qui s'est passé et qu'elles puissent avoir une explication. Je pense que c'est essentiellement ça. Elles y ont droit.
Oui, mais je veux dire que là, il va être condamné. S'il est condamné, au moins sur les 13 mises en examen, nouvelle condamnation, il va la faire en plus des 20 ans?
Non, elle va se cumuler avec la première, tout simplement.
Comment on peut accepter ça? Comment les victimes peuvent-elles accepter
la loi,
ça?
Là-dessus, c'est la loi. Donc, il faut changer la loi et avoir un système comme aux USA, par exemple, où on a un cumul des peines.
On peut faire 200 ans, 300 ans,
etc. Mais en revanche, là, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que les victimes, c'est la reconnaissance d'être une victime, d'avoir l'auteur défini. Donc c'est pour voir mettre un visage aussi banal soit-il, mais sur l'agresseur et avancer. Donc nous, quand on avait des rapports avec nos victimes, c'était ça. Quoi.
Et aussi l'indemnisation des victimes, puisque tout traumatisme, tout préjudice doit faire l'objet d'une réparation judiciaire.
Général, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que quand il est condamné pour cette première série de crimes, il en reconnaît une partie immédiatement, puis il dément être responsable d'une seconde partie. Et là, ces cas qui lui sont reprochés, ils étaient évoqués, mais parce qu'on était dans un mode opératoire différent. Et donc, il ne lui était pas imputé. Et qu'aujourd'hui, on se dit, il a peut-être agi différemment. Comment on explique cette espèce de paradoxe où on a écarté sa pseudo-responsabilité alors qu'on était dans un violeur en série, parce que c'était plus le matin, mais par exemple, c'était des viols le midi. C'était plus des viols où il arrivait par derrière, mais où il arrivait par devant. Ça paraît, d'un point de vue de novice, de néophyte, ça paraît surprenant, le fait de ne pas être allé au bout de ces histoires-là.
Oui, ça, on peut se poser la question et il faudrait voir avec le ou les juges d'instruction pourquoi il y a eu cette mise de côté et qui pouvait être parfaitement logique, comme vous le disiez, par rapport au modus operandi. Toutefois, de façon à ne pas laisser quelque chose, une affaire se clore sur un grand point d'interrogation et pour prendre en compte les victimes, il est intéressant de retravailler là-dessus. Ne serait-ce que pour, si ce n'est pas lui, eh bien l'écarter, mais aller chercher plus loin quel peut être le ou les autres auteurs de ces viols.
Ouais, en se disant, en préparant l'émission avec Ronald, et on voulait vous demander ça, Anne, est-ce qu'il a le dos large jusqu'à là? Est-ce qu'on n'essaie pas de lui en coller
oui,
un peu
plus? Oui, mais en réalité, en fait, on dit il venait par derrière et la jeune victime le reconnaissait pas et elle était étranglée. En réalité, son mode opératoire est beaucoup plus riche. Et ça, c'est sur 30 ans. Alors sur 30 ans, on peut imaginer aussi qu'il a évolué. Et donc, il y a quand même un certain nombre de viols, de faits très graves qui ont été faits à domicile. Or, on ne dit pas que son mode opératoire, c'est d'aller à domicile. Il y a quand même eu 3 victimes, 2 françaises et 1 belge, qui ont été attaquées comme ça. Il y a eu aussi des attaques le soir. Le soir, parce que Dino Scala, à ce moment-là, avait un enfant à l'hôpital, il travaillait pas, voilà. Je pense qu'il faut regarder à la loupe sa vie, et puis voir ce qu'il a pu faire, et pas faire, parce que évidemment, faut pas non plus qu'on lui impute des choses qu'il n'a pas faites, bien évidemment. Mais c'est plus compliqué que ça, et je dois dire que il y a un certain nombre de victimes qui ont failli être écartées, et que ce sont les avocats qui ont fait, dont une d'entre elles, qui ont fait un travail incroyable. Moi, je l'ai vu dans le dossier, de comparaison avec toutes les autres attaques. Elle a comparé, elle a dit, ça voilà, il a déjà fait ça dans tel cas, ça il a fait ça dans tel cas. Et du coup, la première juge d'instruction, elle, eh bien, elle n'a pas pu dire, bah non, c'est pas Dino Scala. Mais les victimes dont la défense n'a pas fait ce travail-là, elles ont été écartées, ce qui ne veut pas forcément dire que ce n'est pas Dino Scala qui les a attaquées.
Parlez-nous, Anne, d'un personnage du dossier qui s'appelle Christine Fichot. Dites-nous
alors
qui
elle est.
Alors,
elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je l'ai rencontrée. Elle est toute humble. Elle est géniale, cette femme. Cette femme, c'était une documentaliste du SRPJ de Lille. Et en 88, quand elle a commencé à faire la documentation, c'est elle qui mettait les dossiers, qui les classait, en fait, les histoires d'attaques, les histoires de mœurs, les histoires de vol. Et l'une des premières victimes qui est arrivée sur le bureau d'un juge, c'est en 96, une certaine Dalila. Et donc, elle a eu connaissance également de cette victime. Et quand elle a lu le dossier, elle s'est dit, mais c'est pas possible, ce type-là, il n'en est pas à sa première. Et donc, elle a été retrouvée. Tous les faits de mœurs qu'elle avait, elle, classés dans une petite armoire en fer. Et elle a fait un travail de fourmi, où elle a fait ce que, en fait, aujourd'hui, on fait d'une façon numérique. Elle a mis foulard, arrivée par derrière. Enfin, elle a classé.
Avec les logiciels, notamment
voilà,
aujourd'hui.
Toutes les caractéristiques. Et c'est elle qui s'est dit. Qui a mis tout un tableau avec d'autres victimes potentielles.
Une dernière question pour vous, Paul Bensussan. Quelqu'un qui dit « ça j'ai fait », qui reconnaît le parti, « ça j'ai pas fait », quand on connaît son parcours, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut croire et est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut juger en fonction de ce qu'il dit ?
Alors, on pourrait dire « il n'a rien à gagner à avouer », mais rien à gagner non plus à nier. Mais ce qui rend, enfin, il y a déjà un doute sur sa sincérité, mais il y a aussi un doute sur le fait qu'il y a une amnésie possible. C'est sur 3 décennies, mais surtout les victimes n'ont pas de visage, déjà parce qu'ils les attaquent par derrière, mais surtout parce qu'il n'a pas de type physique. Blonde ou brune, mince ou en chair, adolescente ou sexagénaire, tout lui convient pourvu que ce soit une femme. Ça lui est complètement égal. Il y a certes un fétichisme des seins, mais même ça n'est pas obligatoire. Donc, le fait qu'il ait un spectre extrêmement large de victimes potentielles ne facilite pas le travail des investigateurs et doit rendre extrêmement circonspect ces dénégations. Ces victimes n'ont pas de visage.
Merci beaucoup Paul Bensussan, merci beaucoup Anne Gauthier. On va garder le général dans un merci d'avoir été avec nous pour revenir à la fois sur ces nouvelles affaires et sur le parcours terrible de Dino Scala. Dans un instant, Dominique, nous allons tenter de répondre à une question extrêmement importante qui concerne évidemment Cédric Jubilard, qui doit comparaître à partir du 22 septembre prochain. Et des nouvelles analyses pourraient permettre d'avancer sur l'affaire, évidemment, la responsabilité possible de Cédric Jubilard concernant la disparition de sa femme. C'est dans un instant. Merci. Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes pour le dossier de la semaine. Dominique, ce sera à partir du 22 septembre prochain. Cédric Jubilard fera face à la cour d'assises du Tarn. Le mari de Delphine Jubilard, seul suspect du meurtre de sa femme dans une affaire sans aveu et sans corps, continue de clamer son innocence, mais de nouvelles données technologiques pourraient faire éclater la vérité. Avant d'échanger avec nos invités et d'en venir à nos informations, voici le résumé de ce qu'il faut retenir avec Elisa Frana.
La téléphonie a toujours contribué au mystère autour de la disparition de Delphine Jubilard. La nuit du 15 au 16 décembre 2020, son mari Cédric a éteint son portable entre 22h08 et 3h53, geste très inhabituel pour lui. Mais une analyse plus poussée de son téléphone a révélé une donnée d'emplacement dans ce laps de temps à environ 25 km du domicile du couple, à 3h21 précisément, dans un endroit boisé sur la commune de Mirandol-Bournounac. Pourquoi ces données GPS apparaissent-elles à une heure où Cédric Jubilard assure qu'il dormait chez lui, portable éteint ? Sa défense parle de faux positifs, autrement dit une erreur.
Ce
ce point a été vérifié, il s'agit d'un bug technique, c'est dans le dossier, et que même des investigations ont été menées sur ce point et qu'il n'a rien été trouvé.
Oui, la zone a été vérifiée par un gendarme dès 2021, mais sur ses conclusions, aucune fouille n'a eu lieu.
Il semble, selon l'enquêteur, impossible, en tout cas très compliqué, d'imaginer un trajet en voiture. Et donc, ça voudrait dire, alors, si on poursuit cette hypothèse de l'accusation, il aurait fallu que Cédric Jubilard alors transporte le corps de son épouse sur plusieurs centaines de mètres en pleine nuit. Ce n'est pas forcément humainement tout à fait impossible, mais cette hypothèse est jugée très peu probable.
L'avocate de la meilleure amie de Delphine Jubilard a demandé à la présidente de la cour d'assises du Tarn d'ordonner de nouvelles fouilles sur le secteur établi par les coordonnées GPS. Une requête qui intervient à 4 mois de l'ouverture du procès de Cédric Jubilard pour meurtre par conjoint. En détention provisoire, celui-ci clame toujours son innocence.
Dominique, pour tenter d'y voir plus clair et comprendre ce qui se passe, ces nouveaux développements, le général François Daous est toujours sur le plateau sur lequel nous accueillons Pauline Rongier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate d'une partie civile dans le dossier Jubilard. On vient d'évoquer votre demande, on va y revenir évidemment dans le détail. À vos côtés, Mourad Batik, bonjour, avocat pénaliste et avocat de l'oncle et la tante de Delphine Jubilard. Pauline Rongier, maître Rongier, pourquoi cette nouvelle demande, pourquoi ces nouvelles expertises?
Alors, parce qu'on s'est aperçu, comme cela vient d'être dit dans le résumé, qu'une donnée de localisation avait été trouvée par les experts à 3h21 au plein milieu de la zone de la période d'inactivité du téléphone. Alors, pour s'assurer de la fiabilité d'un emplacement géographique, les experts ont besoin de prouver en fait la source technique qui a donné cet emplacement dans le téléphone, et elle ne figure pas dans leur analyse. Donc, ils ont recherché s'il y avait d'autres endroits, d'autres moments en fait où le téléphone avait pu être localisé au même endroit dans la période considérée. Et ils se sont aperçus qu'effectivement le téléphone avait été localisé le 15 décembre, donc dans la journée qui précède la nuit de la disparition, à l'heure du déjeuner. Et pour ces données-là de localisation, il y a bien un chemin source. Il y a bien la source. Ils savent donc que cet emplacement-là, celui de l'heure du déjeuner du 15, est fiable. Cette fiabilité est affirmée. Mais en même temps, ils ont donc conclu qu'il pouvait y avoir un doute sur la fiabilité du point de la nuit, puisqu'ils n'avaient pas la source, et que donc ça pouvait être une sorte d'écho en fait à la localisation du 15. Sauf que, d'une part, la localisation de la nuit n'est pas à exclure sous prétexte qu'il n'y a pas la preuve de la source. Et d'autre part, sur cette localisation du 15, elle arrive en contradiction totale avec toutes les déclarations de Cédric Jubilard sur sa journée du 15. Puisque le 15, il n'est pas du tout censé être au milieu de ce bois. Oui.
Alors, les informations que vous nous révélez là aujourd'hui, elles ont été données dans Le Parisien cette semaine, un papier de Ronan Folgoas, qui est quand même l'un des meilleurs connaisseurs de ce dossier. Donc, il est bien question, pour qu'on résume, pour ceux qui nous écoutent, d'une expertise privée, c'est ça?
C'est une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire privée, d'accord, qui n'est pas encore versée au dossier.
Ah non, c'est une expertise contradictoire judiciaire effectuée pendant l'instruction en avril 2021.
Voilà, c'est ça. Oui, en fait, oui. Parfaitement, ce que demande la consoeur, c'est cette expertise devant la présidente de la cour d'assises, mais c'est un point qui a effectivement été pointé du doigt pendant le temps de l'information judiciaire et après l'information judiciaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que un expert téléphonique, puisque c'est un débat qui a attiré notre attention aussi, pour que cet expert téléphonique puisse venir déposer devant la cour d'assises et qu'il puisse venir lui aussi expliquer ce qu'il a compris du dossier dans ses éléments extrêmement techniques.
Ça veut dire, Mourad Pauline, que cet expert, vous allez demander à ce qu'il vienne. Pour l'instant, on ne peut pas prendre son dossier et le mettre dans le dossier d'instruction.
On a deux experts. On a deux experts différents. Oui. En fait, il y a l'expert que moi, j'ai sollicité devant la cour d'assises, et il y a l'expert que ma consoeur a aussi sollicité. Il y a deux expertises différentes.
Moi, je parle bien de l'expertise qui est versée au dossier de l'instruction quelques mois après la disparition, vraiment au début des investigations, en avril 2021. Et quand l'expert à ce moment-là pointe la pertinence et la cohérence de ces points, et il en informe le juge d'instruction, les juges d'instruction envoient un enquêteur sur place, et cet enquêteur effectue un repérage sur les lieux qui dure montre en main 30 minutes. C'est ce dont je me suis aperçue à la lecture du procès-verbal, sans fouiller, sans rien, en concluant juste que le chemin n'étant absolument pas bétonné, c'est une piste à exclure. Voilà.
Selon nos informations, hein, on a travaillé avec Ronald et le service police-justice de BFM TV, selon nos informations, on est en mesure de vous révéler que entre le 15 novembre et le 15 décembre, Delphine disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre, d'accord ? Entre le 15 novembre et le 15 décembre, ça fait un mois, le téléphone portable de Cédric Jubilard note 40 positionnements. 40 positionnements, ça veut dire 40 fois son téléphone, soit est allé sur zone, à cet endroit qui n'a pas été fouillé, qui était visité par un gendarme et qui n'a pas été fouillé, soit il est allé sur zone, soit il y a eu des connexions boussole avec ce secteur-là. En tout cas, sur les 40 fois, 17 fois sur le téléphone était physiquement à cet endroit-là. Les autres fois, c'est des positionnements. Est-ce que vous êtes... Ça, c'est dans l'expertise privée. Dans le rapport privé, pardon. Est-ce que vous êtes en... Est-ce que vous confirmez?
Oui, je confirme parfaitement, Dominique.
Ces informations.
Ces informations, je les confirme.
17 fois sur place.
Tout à fait, tout à fait. 17 fois sur place. C'est ce qui a attiré mon attention. C'est ce qui a fait que j'ai demandé à un expert, effectivement, de venir déposer devant la cour d'assises dès lors que le procès sera ouvert pour justement avancer ces points-là, débattre de ces constatations qui ont été faites et qui, à mon sens, peuvent changer la nature de l'audience et du procès.
Précision importante, avant la disparition et plus de bornage, plus de pointage après la disparition. C'est aussi ce qui fait que
C'est ce qui attire notre attention, parce que pour le coup, il y a un avant et un après, et il y a une façon d'utiliser le téléphone qui est complètement différente avant et après, avec effectivement un certain nombre de fois où le téléphone va borner à un endroit précis, et puis par la suite, ça va s'estomper d'un coup d'un seul.
Alors, si je peux intervenir, deux choses. Alors, ça révèle d'une part que la piste de la préméditation n'est pas à exclure du tout en ce qui concerne Cédric Jubilard. D'ailleurs,
dont je rappelle qu'il est présumé innocent, pardon, c'est important aussi.
On a quand même fait un pas en avant, là, on va beaucoup plus loin.
On sait que cet accusé a annoncé 3 semaines avant la disparition de Delphine et encore 3 jours avant la disparition de Delphine qu'il allait la tuer, l'enterrer et que personne ne la retrouverait.
Parce qu'elle voulait demander le divorce, elle lui avait annoncé cette volonté-là, pardon.
Voilà, enfin, c'est la raison qu'il avance. Hein. La réalité, c'est que Monsieur Jubilard, il y a une chose qui compte absolument pour lui le plus au monde, c'est sa maison. Et le fait d'en rester propriétaire, d'en devenir intégralement propriétaire. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça oriente sur cette piste de la préméditation, que ces localisations, elles sont évidemment à prendre en compte, et que à mon sens, ces analyses, ces fouilles ne peuvent pas attendre le début du procès. Il faut absolument, là, ça fait semaine que ces données de géolocalisation, elles ont été mises en valeur, données à la cour, avec cette demande d'acte que j'ai fait lundi, un complément à ma demande d'acte que j'ai réenvoyé jeudi. On ne peut plus attendre. Il faut aller sur place, il faut fouiller, il faut creuser.
Comment est-ce qu'on fait pour aller sur place? Puisque le dossier, il était clôturé par les juges, c'est fini.
Heureusement que la justice prévoit, quand on a des nouvelles pistes de cette ampleur, que le président, la présidente, en l'occurrence de la cour d'assises, puisse ordonner des nouvelles investigations. Et c'est bien ce qu'on demande à la présidente de la cour d'assises. Ce procès, même si on estime, et moi j'en suis intimement convaincue, qu'il y a suffisamment d'éléments à charge pour retenir la culpabilité de Cédric Jubilard, un procès, c'est pas seulement l'identification d'un coupable et la déclaration de culpabilité de l'accusé, c'est aussi la manifestation la plus complète de la vérité. Aujourd'hui, on a un corps introuvable, laissé dans un endroit probablement totalement indigne d'une mère de famille, et il est nécessaire, il est impératif, ça fait partie du travail de la justice d'aller essayer de trouver ce corps.
Et Dominique, ce qui est important, est-ce que vous allez nous expliquer, c'est qu'on n'est pas n'importe où non plus. C'est-à-dire que le téléphone, il pointe, il borne, il est localisé. Mais on n'est pas dans un endroit qui est totalement non lié à l'affaire et à Cédric Jubilard.
C'est un endroit parfaitement cohérent.
Alors, maître, on reprend les informations de le témoignage de Ronan Folgoas qu'on a entendu dans le sujet d'Elisa Trana à l'instant, qui dit un gendarme est bien allé sur place, il est allé vérifier, mais l'endroit n'a pas été fouillé. Et ce gendarme et les gendarmes considèrent, après on viendra vers vous, général, considèrent que c'est beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on peut garer une voiture, mais que pour aller jusqu'à l'endroit où borne le téléphone de Cédric Jubilard, s'il y a plusieurs centaines de mètres, on ne peut pas transporter un corps sur plusieurs centaines de mètres. Or, ce même expert privé, lui considère qu'on peut y aller par un autre côté. On peut y aller par un endroit, par un chemin donc qui mène à la sortie de Casoul,
et qui
mène à cet endroit
en borne
de téléphone, et qui n'est pas à plusieurs centaines de mètres, mais qui est juste à une centaine de mètres, une seule centaine de mètres. Et à l'extrémité de ce chemin, il y a une bergerie désaffectée, et il y a un endroit où on entrepose des matériaux de construction.
On peut rappeler le métier de Cédric Jubilard. C'est aussi pour ça qu'il est...
Cédric Jubilard, il est plaquiste. Alors, est-ce qu'il allait dans cette entreprise se fournir? En tout cas, la nuit, il n'y a personne. Et si le corps était transporté, il était transporté vers 2h du matin, à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et là, on peut accéder à cet endroit. Comment se fait-il que les gendarmes soient passés à côté de ça? On n'est pas considéré autrement que par une simple vérification. Tiens, on peut peut-être y aller par ailleurs. Ça paraît énorme quand même.
Pardon. Je vais juste donner un autre élément qui abonde dans votre sens, Dominique Rizet. Effectivement, cet endroit n'a pas été fouillé alors qu'on avait une donnée scientifique et puis un chemin accessible. Donc c'est incompréhensible. Mais en plus, je me suis souvenu que Cédric Jubilard avait déclaré à son co-détenu qu'il avait mis le corps dans un endroit qui a brûlé. J'ai fait des recherches sur Google et je me suis aperçue que 10 hectares ont brûlé dans la forêt de Mirandole.
À cet endroit-là.
Complètement dans ce secteur. Voilà. Donc, je voulais aussi donner cette information. Je laisse la parole quand même
à... Général, pardon.
Alors, comment les gendarmes ont pu passer à côté?
Pourquoi
pas? Ça paraît invraisemblable.
Ça paraît invraisemblable, mais les choses peuvent arriver. Alors là, je pense que la présidente de la Cour d'assises va certainement faire des actes, justement, d'investigation pour ou fermer la porte, ou au contraire, aller vers une confirmation. En tout cas, au point de vue investigation numérique, là, il va y avoir un véritable débat d'experts, et il y aura des moyens qui pourront même être mis à disposition. Il faut savoir que le code de procédure pénale prévoit que si les laboratoires habituels de police ou de gendarmerie n'ont pas cette capacité, il peut être fait appel à des services spécialisés, pour ne pas les nommer, la DGSI, la DGSE, qui ont d'autres outils. Donc, ça peut aller jusque-là. À partir de là, si on a vraiment cette confirmation de géolocalisation, ben les fouilles vont devoir reprendre. Et l'effet tunnel dont on parle régulièrement des
enquêteurs s'enferment dans une seule
conviction, ce sera plutôt ce lieu. Il y a des descenderies à tel endroit, il y avait les mines avec les galeries.
Des descenderies ?
Des descenderies, ce sont comme il y avait des mines.
Comme des puits ?
Ce sont des puits d'accès à ces mines. Et il y a des trous d'aération, des galeries d'aération qui sont là aussi, qui permettent beaucoup de choses. Donc, focaliser sur un endroit facile d'accès, les descenderies sont faciles d'accès, sur ces lieux, eh bien, on néglige peut-être autre chose.
Une question de droit, maître Batik. Ouverture du procès, 22 septembre prochain, cour d'assises du Tarn à Pau. Est-ce que ces éléments peuvent ou seront pris en compte? Et est-ce que, expression journalistique, est-ce qu'on peut dire que l'étau se resserre un peu plus autour de Cédric Jubilard? Est-ce qu'on est dans avec ces informations que nous vous révélons aujourd'hui, on est dans une autre dimension désormais?
Non, je crois que le dossier, il est assez solide avec ça ou sans ça, en réalité. On a, depuis le début dans le dossier, une partie adverse qui nous explique que le dossier est vide et il suffit de lire le dossier une fois pour comprendre que le dossier est tout sauf vide. Il y a un certain nombre d'éléments qui a emporté la conviction des juges d'instruction de renvoyer devant une cour d'assises Monsieur Jubilard. Et puis, aussi un mot, aussi, nous, on en est encore à là avec ma consoeur qui a brillamment fait une nouvelle demande sur laquelle j'ai aussi travaillé avec un expert, etc. C'est aussi parce qu'il a démultiplié les fausses pistes, il a démultiplié les pistes qui ne menaient à rien, et on a des juges d'instruction qui ont enquêté à charge, mais surtout à décharge, et donc ça a demandé un travail colossal à chaque fois d'aller exploiter des pistes sur lesquelles envoyer ce joueur de poker qu'est Cédric Jubilard. Et donc ça hautement compliqué l'instruction, hautement compliqué l'enquête, et donc on se retrouve aujourd'hui à devoir encore à arborer des pistes qui sont extrêmement importantes. Maintenant, si on trouve le corps ou si on ne trouve pas le corps, ça n'est pas l'enjeu de la culpabilité. Vous savez très bien que de très nombreuses personnes ont été condamnées alors que le corps n'a pas été trouvé, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a une prime à ceux qui cachent le mieux le corps. C'est pas sur ça que repose et qu'est fondée la culpabilité d'un individu. Aujourd'hui, il est encore présumé innocent, mais il y a assez d'éléments pour qu'il soit renvoyé devant la cour d'assises.
Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes et d'avoir commenté des informations, notamment Dominique Rizet et du service de justice. Merci. Merci beaucoup. On en vient à l'invité de la semaine. Et est l'invité de la semaine et l'un des observateurs les plus avisés du monde judiciaire, à la radio, à la télé, à l'écrit et bientôt sur sa chaise. Il nous plonge dans des affaires où le commun rencontre le hors norme, l'exceptionnel, où l'âme humaine sombre parfois dans l'inconcevable. Vous l'avez reconnu. Bonjour Jacques Pradel.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau.
Et bonjour.
Vous avez quitté votre île Corse ?
Ben oui, bien sûr, depuis quelques jours.
Merci beaucoup.
Parce que...
Je précise, en dehors de la Corse que vous venez de
Jacques
publier...
Pradel, comme nous, aime la Corse.
Et écoutez, c'est une bonne nouvelle. Auteur de L'univers du crime, paru aux éditions du Rocher. Je précise également, parce que c'est important et je sais que ça intéresse beaucoup des téléspectateurs d'Affaires suivantes, vous allez participer les 12 et 13 juin prochains à un événement Univers du crime. C'est au cinéma CGR de la Porte des Lilas, banlieue S. C'est un événement qui sera retransmis dans 20 cinémas en France. Merci d'être avec nous dans Affaires suivantes. Nous avons lu avec Dominique, avec attention, votre ouvrage. On y croise, ce qui est très intéressant, ce sont les formats courts, des histoires très courtes à chaque fois. Oui. On y croise beaucoup de profils différents, Zola, Agatha Christie, Yann Piat, Gianni Versace, Marie Bénard. Comment vous avez sélectionné, quand on a votre connaissance du monde judiciaire, comment vous avez sélectionné ces affaires ? Est-ce qu'il y avait un critère particulier ?
Non, tout simplement parce qu'elles correspondaient à ma démarche, si vous voulez, et aussi qu'elles m'avaient particulièrement frappé, soit à cause des circonstances du crime, soit à cause de la personnalité de l'auteur, homme ou femme, ou de la victime. Et ma démarche, c'est plus le décryptage que le macabre. Mmh. Je suis pas attiré du tout par le sang, la violence, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse à la fois, c'est trouver le pourquoi du comment, raconter l'enquête, le procès, s'il, en général, ce sont des affaires qui ont débouché sur un procès, et surtout, surtout penser aux familles de victimes qui, elles, prennent toujours perpète, hein, si vous me passez
l'expression. C'est ce qu'on entend évidemment régulièrement.
Voilà, c'est du chagrin à perpétuité. Et en même temps, ce qui m'intéresse aussi, c'est plus le crime de monsieur et madame tout le monde. C'est des affaires à la Simenon, souvent, mais parfois également du terrorisme, comme l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo.
Huit morts, c'est ça combien ? J'ai noté. 13 morts.
Oui, 13 morts et des centaines. Plus de 6000 blessés. Ouais. Voilà. Et surtout, un projet que le gourou de la secte avait, c'était de faire une véritable attaque sur Tokyo avec, on ne parlait pas encore de drones, mais lui avait préparé des hélicoptères télécommandés pour faire à peu près entre la police japonaise a fait le calcul, ça aurait été 4 à 5 millions de victimes.
Ouais. Vous dites l'univers du crime est un univers parallèle.
Oui.
C'est quoi ça ?
Alors, c'est un univers parallèle, c'est un peu l'inverse de notre univers. C'est-à-dire que toutes nos valeurs sont inversées. Tu ne tueras pas, tu tueras. Tu ne convoiteras pas l'argent de ton voisin, eh ben si.
Le crime ne paie pas.
Alors,
le crime paie.
Le crime ne paie pas, d'une manière générale, ça n'a pas changé. Parce que très souvent, soit il y a une enquête excellente de police ou de gendarmerie, soit parce que la police scientifique, Général Daoust est là pour en témoigner, a fait des progrès considérables, soit parce qu'il y a le grain de sable, c'est-à-dire le petit détail qui, en fait, va livrer l'assassin...
Je ne suis pas d'accord avec vous, Jacques. Parce que je dis parfois ça, c'est une plaisanterie, mais je crois qu'on peut se le permettre. On se détend un peu dans l'affaire suivante à la fin de l'émission. Mais oui. Le crime paie, puisque vous et moi, et Ronald maintenant, qui nous a rejoint, on envie du crime.
Oui, mais enfin...
Quelque part, bon. Non mais...
On le dit
objectivement, et on le dit un peu sur le ton de la plaisanterie.
Moi, je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je n'ai tué personne.
Mais on raconte des histoires de crimes, Jacques.
Oui, bien sûr.
On vit avec ça depuis toujours.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez, moi, je me suis arrêté parce que je ne savais rien de la mort de Zola. Pour être totalement franc,
c'est extraordinaire.
Non, mais c'est absolument. Alors, racontez-nous cette affaire de Zola où on se dit il a été empoisonné avec sa femme qui elle s'en sort parce que cheminée mal bougée. Et puis en fait c'est quand même au final ça reste une histoire de cheminée, mais pas comme on l'imagine.
Ça pourrait être un crime parfait parce que on en a jamais eu la preuve. Ce qu'on sait, c'est que Émile Zola est mort il avait 62 ans.
Je me rappelle plus de son âge.
Donc à la suite de ce qu'on appelle un problème domestique, c'est une cheminée bouchée et
une intoxication au monoxyde
de carbone.
Oui, c'est ça, voilà, ce qu'on dit tout simplement.
Avec sa femme Alexandrine, ils meurent tous les deux.
Oui, non.
Non, elle ne meurt pas.
Elle meurt parce
que dans leur chambre à coucher, le lit était légèrement surélevé sur une sorte d'estrade en bois. Émile Zola est tombé, lui, il a eu un malaise. Il est tombé au sol, là où la concentration d'oxyde de carbone est là, est maximum. Et Alexandrine était sur le lit. Bon. Et donc, elle a témoigné. On sait ce qui s'est passé dans la nuit. Alexandrine a dit, ben voilà, on s'est trouvé très mal tous les deux, on a eu des maux de tête, on a vomi,
ah,
et on a pensé à une intoxication alimentaire. Et Zola lui a dit, bon ben on verra demain.
Ça ira mieux demain, on en parle.
Ça ira mieux demain.
C'est bon. Génial.
Alors, pendant 50 ans, c'est la version officielle. Oui, il faut dire que l'enquête de police du commissariat Saint-Georges n'a pas été formidable.
Et saccagée, vous parlez d'une enquête saccagée.
Oui, bah oui, ouais. Parce que c'est le cas. Bâclée, pardon. Oui, bâclée, pas saccagée, je suis d'accord.
Marion Bordier, notre... Bon.
Mais, donc, c'est la vérité.
Jack me dit que c'est bâclée,
et puis,
pas saccagée.
En 1952, il y a le cinquantenaire de la mort de Zola. Et il y a un journaliste de Libération, Libération Première Manière, hein, c'est le, Libération qui avait été fondée par Dastier de la Vigerie et les résistants, d'où le nom Libération. Et ce journaliste fait une enquête sur... il essaye de retrouver des gens qui ont quelque chose à dire sur l'affaire Zola, sur la mort de Zola. Et il rencontre, au cours de son enquête, un pharmacien de Sarcelles qui a appartenu à une ligue d'extrême droite antisémite qui s'appelait la Ligue des Patriotes.
Parce que Zola, j'accuse évidemment Capitaine Dreyfus, et évidemment, il y a tout ce conflit à l'époque.
Il faut dire que Dreyfus était l'un des hommes les plus à la fois admirés pour son œuvre et les plus détestés par les ligues d'extrême droite et antisémites.
Mais qu'est-ce qui aurait pu lui arriver alors? On a des éléments pour dire que la cheminée n'était pas bouchée, que c'est pas une intoxication au monoxyde, c'est
tout.
Quoi alors?
La cheminée a été bouchée si l'on en
volontairement.
OK.
Si l'on en croit les confidences qu'a recueillies ce pharmacien, qui dans la même ligue des patriotes, il y avait un monsieur qui était fumiste, comme on disait au début du siècle, et qui travaillait sur le toit de l'immeuble d'Émile Zola. Et donc il a bouché la cheminée. Alors, dans son langage, il a dit j'ai enfumé le cochon.
Voilà.
Parce que il recevait des lettres anonymes, des petits cercueils par la poste. Enfin, c'était violent quand même à l'époque. Et le lendemain, quand tout le monde a parlé de la mort d'Émile Zola, eh ben, il a débouché sa cheminée puisqu'il travaillait sur le toit de l'immeuble.
Il faut qu'on avance parce qu'on a d'autres questions à vous poser. Moi, je voudrais, en lisant le livre avec Ronald, on se dit c'est quand même incroyable l'histoire de Gianni Versace, le couturier, qui meurt aux États-Unis, et le type qu'il tue a tué 4 autres personnes.
Oui, absolument. Et ne connaît pas Versace. C'est un tueur en série qui s'appelle Cunanan, qui est en cavale au moment où Versace arrive dans sa maison de Miami Beach.
Ouais.
Il y est venu plus tôt cette année-là, parce que je crois que sa mort remonte au 15 juillet. Il y est allé parce que ses médecins lui ont dit de se reposer. On venait de lui trouver un cancer dans le conduit auditif, enfin bon, bref. Et le matin, Versace allait au bistrot du coin où on trouvait la presse italienne et la presse internationale. Donc il prenait son petit café vers 8h30, puis ensuite il faisait 150 mètres pour retrouver sa maison. Et là, sur ce trottoir, sa route a croisé celle de ce tueur en série qui... n'a pas essayé de le voler, d'ailleurs, c'est ça. Alors, on
peut-être parce qu'il ne savait pas qu'il était aussi.
Parce que Versace est mort, d'une balle tirée dans la nuque.
Deux balles de calibre 40, vous écrivez oui, ça. Deux balles avait, de calibre 40.
Et la balistique a montré que cette même arme avait déjà tué quatre fois.
L'arme qu'utilisait Andrew Cunanan, qui va tuer Versace, et qui n'est pas n'importe qui, c'est un beau garçon homosexuel qui a déjà tué dans les... On lui court après tous les États-Unis de recherche.
Et
voilà.
Puis il a fini par tirer sur tout ce qui bougeait. Et il avait le FBI à ses trousses. On pense qu'il n'a même pas reconnu Versace, puisque les témoins ont dit, c'est un jeune homme, il a poussé Versace et il a tiré. Voilà.
Il nous reste deux minutes. Vous choisissez, faites votre choix. Choisissez-nous une affaire, vous avez deux minutes pour la raconter, nous faire libérer.
Une des histoires les plus récentes, malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler très longuement, mais c'est un peu un signe des temps, parce que moi je pense que chaque affaire criminelle révèle quelque chose sur l'état de la société, et quelquefois tire des sonnettes d'alarme. En Angleterre, dans la région de Manchester, en 2023, deux adolescents de 16 ans, un garçon et une fille, tuent. C'est un féminicide, c'est un transféminicide, comme l'a appelé la presse anglaise. C'est-à-dire qu'ils avaient une petite amie, une amie intime de collègue, une autre collégienne, qui était transsexuelle, qui avait le même âge qu'eux. Ils l'ont tuée, mais c'est un assassinat. C'est-à-dire que ça faisait des mois qu'ils avaient décidé de tuer cette jeune femme. Voilà, ils ont été condamnés à perpétuité, et ce qui est rarissime en Grande-Bretagne, le meurtre a été tellement épouvantable que la justice britannique a décidé de donner les noms. En général, on donne même pas le nom des accusés, on met des initiales. Et là, pour des mineurs de moins de 16 ans, c'est extraordinaire.
Alors, voilà. Il y a
des associations de lutte contre la transphobie et contre les crimes homosexuels qui ont relevé 250 faits comparables dans l'année 2024.
Ah voilà, on a presque terminé. On aurait aimé que vous nous parliez du dépeceur de Mons.
Dépeceur de Mons.
Oui,
incroyable.
On a 20 secondes.
Il y a Marion Bordier qui me dit à l'oreille, c'est fini.
En 20 secondes, on peut dire que le tueur qui n'a jamais été identifié avait un humour macabre incroyable, puisque les sacs poubelles dans lesquels on a retrouvé les morceaux de corps, 18 sacs poubelles, étaient déposés rue du Dépôt, sur les quais de la rivière de la, le canal de la Haine.
Il faut le lire. Voilà. Et il y a Bruno Sulac aussi.
Merci beaucoup.
Bruno Sulac, voyou à l'ancienne.
Une prochaine fois, vous reviendrez. Merci beaucoup, Jacques Pradel.
Vous donnez un rendez-vous au mois de juin, là, vous recevez.
Oui, 12 et 13 juin.
Au cinéma CGR par Delia.
Alors, Jacques, il y a Marion Bordier, notre chef d'édition, Elisa Trana, notre journaliste qui fait tous les sujets, et Sabina Iklazova, notre programmatrice, qui aimerait venir. Il faut
les inviter.
Elles sont invitées? Évidemment.
Nous poursuivrons cette conversation.
Vous aussi, vous deux.
On viendra.
Merci beaucoup, Jacques Pradel. Merci beaucoup, Dominique. Le week-end prochain, Affaire suivante serait bien, mais ce sera avec Pauline Revena et Laurent Valdiguier. Nous, on se retrouvera dans 15 jours. Merci beaucoup, Jacques Pradel. Très bon après-midi à vous.
Affaire suivante sur BFM Radio.